11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika.
Srebrenica est enfin serbe. Nous offrons la ville au peuple serbe. L'heure a enfin sonné de notre vengeance sur les Turcs. Général Mladić, 11 juillet 1995.
Ans d'histoire. Il était presque 14 heures le 11 juillet 1995 quand le général Ratko Mladić, commandant l'armée des Serbes de Bosnie, entrait dans la ville de Srebrenica qu'il assiégeait depuis plus de 3 ans. Exploitant la haine ancestrale qu'entretenaient les responsables serbes contre les Turcs qui les avaient occupés jusqu'au 19e siècle, Mladić livrait à ses hommes la population musulmane de la ville. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, habitants de Srebrenica ou réfugiés, qui étaient venus pour échapper à la politique d'épuration ethnique du chef des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić. Théoriquement protégé par les casques bleus de l'ONU, qui avait fait de Srebrenica une zone de sécurité, ils ignoraient ce 11 juillet 1995 qu'ils allaient être les victimes du plus grand massacre de masse qu'ait connu l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un massacre dont les deux principaux responsables étaient aussitôt inculpés, avant même qu'on découvre les horreurs qui s'étaient produites à Srebrenica. Bruno Mazur sur France 2, le 25 juillet 1995.
Le leader des Serbes bosniaques, Radovan Karadžić, et son bras droit, le général Ratko Mladić, commandant de l'armée serbe bosniaque, ont été inculpés aujourd'hui par le tribunal criminel des Nations Unies. Les responsables des Nations Unies sur place sont toujours sans aucune nouvelle d'environ 7000 habitants de l'enclave musulmane de Srebrenica tombés aux mains des Serbes il y a maintenant 2 semaines. Thierry Tuillier.
Radovan Karadžić, le politique, et Ratko Mladić, le militaire. Voici les deux principaux accusés serbes d'une liste qui en compte 24, inculpés de génocide et de crimes contre l'humanité. L'acte d'accusation est aussi long que grave. Il aurait reproché à eux et aux milices qu'ils dirigent d'être les organisateurs de l'épuration ethnique en Bosnie, comme dernièrement à Srebrenica. Le bilan est éloquent, 23 000 réfugiés, 7 000 disparus.
Et on saura plus tard qu'à Srebrenica, plus de 8 000 musulmans ont été assassinés en 6 jours par les milices serbes de Ratko Mladić. Sylvie Maton, bonjour.
Bonjour.
Alors, il faut avoir le cœur bien accroché pour lire votre livre sur Srebrenica qui vient d'être publié chez Flammarion, d'abord à cause du nombre des victimes, mais aussi de la manière dont elles ont été tuées, mais également à cause de la lâcheté de la communauté internationale qui a laissé faire. Alors, dites-vous qu'on se savait ce qui allait se produire. Srebrenica, c'est un génocide annoncé, c'est même le titre de votre livre, Sylvie Maton.
Oui, d'abord, il fallait également avoir le cœur bien accroché pour l'écrire. Je ne savais pas où cette enquête allait me mener lorsque je l'ai démarrée. J'ouvrais une porte, je me retrouvais dans une pièce très sombre, très glauque. Il y en avait une autre à ouvrir, etc. Enfin, cette enquête a été menée d'interview en interview et je ne pouvais plus lâcher le sujet parce que je sentais bien qu'il y avait un gros secret, une boîte de Pandore quelque part que j'allais peut-être découvrir un jour. Donc oui, c'est un génocide annoncé, certes. Lors d'une conférence à Sarajevo, on m'a dit « c'est un très bon titre » et j'ai rétorqué que je n'en étais pas si sûre car c'est un pléonasme, car tout génocide est toujours annoncé puisqu'un génocide est planifié, organisé. C'est l'une de ces...
Oui, mais la planification n'est pas forcément connue. Dans le cas de Srebrenica, oui, vous le montrez.
Oui, dans le cas de la Bosnie dans son ensemble et de toutes les guerres, de toute façon, menées par Milosevic, effectivement, la communauté internationale était parfaitement informée à travers les renseignements, les services secrets, etc., bien sûr.
Alors, vous citez au début de votre livre Hannah Arendt, qui, à propos de la Shoah ou après la Shoah, disait « Que s'est-il passé? Pourquoi cela s'est-il passé? Comment cela a-t-il été possible ?» Ce qu'elle écrivait en 1949, on pourrait très bien le dire à propos de Srebrenica. C'est d'autant plus atroce qu'il s'agit d'un affrontement entre des communautés qui vivaient depuis très longtemps, au moins depuis 1918, dans la même Yougoslavie, qui vivaient ensemble, étroitement mêlés. C'est ça d'ailleurs qui fait aussi l'horreur de Srebrenica, le massacre de musulmans vivant en Bosnie par des Serbes qui étaient orthodoxes. On a pu parler même de guerre de religion, pratiquement.
Voilà, vous posez plein de questions, là, à travers cette phrase. Ça n'a évidemment jamais été une guerre de religion, puisque le propos des agresseurs n'a jamais été de convertir les populations agressées à une autre religion que la leur. Donc ça, déjà, c'est une raison qui a pu être invoquée par certains et qui est absolument à côté de la réalité. Ces populations vivaient très bien ensemble et auraient pu continuer à vivre ensemble très bien pendant de longues décennies et des siècles si Milosevic n'avait pas pris le pouvoir et si en Serbie déjà, après un putsch politique, etc., et si Milosevic n'avait pas décidé un jour, s'il n'avait pas été assoiffé de pouvoir sur l'ensemble des autres républiques de la Fédération yougoslave.
Alors cette Yougoslavie, justement, elle éclate en 1991 avec l'indépendance d'abord de deux des anciennes républiques, la Slovénie et la Croatie. Mais en Bosnie, c'est en Bosnie que les choses vont être plus graves, parce que là, on y trouve pratiquement toutes les communautés qui vivaient dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, lorsque, justement, cette Bosnie proclamait à son tour son indépendance en mars 1992, après un référendum.
Bonsoir, c'est une petite Yougoslavie à elle toute seule. La Bosnie-Herzégovine a voté pour l'indépendance, mais la minorité serbe se sent très directement menacée. Aujourd'hui, des premiers coups de feu ont été tirés à Sarajevo.
Au lendemain de la victoire du oui pour l'indépendance, la Bosnie-Herzégovine est au bord de la guerre civile. Affrontement sanglant dans la capitale l'année dernière entre Serbes opposés à cette indépendance d'un côté, musulmans et croates de l'autre.
Un moment de vérité dont chacun sait qu'il risque de faire exploser la poudrière ethnique que constitue la Bosnie. Si les troubles se poursuivent, ils déboucheront sur une guerre qui dépassera sans doute en sauvagerie celle qui s'éteint à peine en Croatie. Un responsable serbe disait ce matin que, comparé à la Bosnie, l'Irlande du Nord pourrait passer pour un village de vacances.
Et ce que l'on vient d'entendre, c'était en 1992, un peu plus de 3 ans avant le drame de Srebrenica, c'était plutôt bien vu d'imaginer ce qui allait se produire. Et ce qui s'est produit, c'est tout simplement à cause du refus des Serbes de Bosnie d'accepter cette indépendance de la Bosnie où ils se retrouveraient minoritaires, Sylvie Maton.
Oui, oui et non. C'est-à-dire que là, on touche un petit peu au faux problème posé par Milosevic.
Alors Milosevic, qui lui est le président de la Serbie, qui vient de perdre 3 de ses républiques, enfin de l'ex-Yougoslavie, qui vient de perdre ses 3 républiques.
C'est-à-dire qu'il est président de la Serbie et à un moment donné, il va se retrouver, puisque la présidence de la Fédération yougoslave est une présidence tournante, il se trouvera également président de la Fédération yougoslave. Il a désiré dans un premier temps asseoir son hégémonie sur les autres républiques yougoslaves en faisant voter des lois constitutionnelles que les autres chefs d'État ont refusées. Chefs d'État donc de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie. Là-dessus, son plan B était effectivement la guerre. Donc prendre le pouvoir sur ces républiques par la force. Son seul propos acceptable, entre guillemets, par la communauté internationale ne pouvait être que la défense des Serbes minoritaires dans les républiques. Les Serbes en question n'étaient absolument pas en danger de quoi que ce soit. Ce fut un prétexte pour agresser les autres populations.
Serbes qu'il chauffe à blanc, littéralement, en se présentant comme le défenseur de tous les Serbes, y compris ceux de Bosnie, ennemis des anciens occupants turcs, c'est-à-dire en fait, il les chauffe à blanc contre les musulmans de Bosnie notamment ou du Kosovo.
Voilà, il les chauffe à blanc, c'est pour ça qu'un génocide est toujours annoncé, parce qu'il y a toujours une propagande qui existe dont on peut entendre les échos, même si on est très loin, enfin bon, peu importe. Mais oui, il les chauffe à blanc, il leur fait peur, et lorsque vous prononcez le mot musulman, j'ai quand même envie de faire là une petite rectification. Aujourd'hui, les musulmans de Bosnie s'appellent des bosniaques, et c'est un terme que Tito leur avait refusé à l'époque.
Oui, mais c'est en tant que tel qu'ils ont été éliminés à Srebrenica.
Avec un grand thème, c'est-à-dire que ça, c'était Cette population n'avait pas d'identité. Et Tito, au lieu de leur donner l'identité bosniaque, pour justement ne pas contrer les Serbes qui, de l'époque, qui avaient déjà des vues sur la Bosnie, a préféré les appeler des musulmans avec un M majuscule. Soi-disant, on n'allait pas confondre les musulmans avec un M majuscule, avec les musulmans religieux avec un M minuscule. C'était très dangereux, c'était très important.
Alors, toujours est-il que Milosevic soutient, par exemple, la création d'un gouvernement serbe de Bosnie, indépendant du gouvernement qui a proclamé son indépendance, dirigé par Radovan Karadzic, avec une armée dirigée par Ratko Mladic. Et ces hommes vont tout faire pour agrandir la partie occupée par les Serbes en Bosnie et en éliminer les musulmans qui y vivaient depuis des siècles. C'est ce qu'on appelait l'épuration ethnique. Et ça a été terrible. C'était au nom de cette épuration ethnique, d'ailleurs, qu'il va se passer ce qui s'est passé à Srebrenica, c'est-à-dire qu'on chasse de chez eux des millions de musulmans en Bosnie et de Croates aussi. On les enferme dans des camps épouvantables. Et puis, ils vont se réfugier dans des villes comme Sarajevo ou Srebrenica, hein, qui vont être assiégées par les forces serbes dès le début de l'indépendance de la Bosnie, Sylvie Maton.
Oui, absolument. En fait, le propos de Milosevic, avec l'accord des Occidentaux parfaitement informés, était de réussir l'épuration ethnique, le nettoyage ethnique, que moi je mets toujours entre guillemets, parce que je trouve ces termes absolument épouvantables, ils ne peuvent pas entrer dans le langage courant comme cela.
C'était les mots qu'ils employaient.
Voilà. Oui, ce qui évitait d'employer des mots qui avaient des conséquences juridiques telles que crime contre l'humanité ou génocide. Le propos était de réussir donc ce nettoyage ethnique en deux mois, c'est-à-dire entre mai et juin 92. Il a failli réussir, si ce n'est que certaines enclaves avec des combattants, c'est-à-dire des Bosniaques qui avaient pris leur vieille pétoire, parce qu'ils n'avaient que ça à l'époque, avaient réussi à conserver quelques petits territoire, donc des enclaves qui allaient ensuite devenir des zones de sécurité. Sarajevo en fait partie d'ailleurs, enfin une grande partie de la ville, et Srebrenica, Djepa, Gorajde, enfin des petites enclaves de l'Est, une au nord, une à l'ouest.
Enclaves vers lesquelles effectivement beaucoup d'entre eux, beaucoup de musulmans sont venus se réfugier, d'autant plus que justement ils étaient placés sous la protection de la FORPRONU, les casques bleus de l'ONU, par la résolution 819, eh bien, faisait de ces villes des zones de sécurité. Vous venez de le dire, c'était en avril 1993.
Good evening. The battle for Srebrenica tonight appears to be over. Only the terms of the surrender remain to be worked out. The Security Council is...
Bonjour. Les yeux du monde fixés sur Srebrenica. L'enclave musulmane est toujours soumise à la pression serbe. Un convoi est parti ce matin pour la ravitailler. Hier, l'ONU a déclaré Srebrenica zone de sécurité afin de protéger les populations civiles.
Those against, the draft resolution has been adopted unanimously as resolution 819.
The safety zone in Srebrenica.
Srebrenica. That will be a safe area.
Srebrenica sera une zone de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire?
Safe area.
Une zone de sécurité.
Okay.
Et oui, une zone de sécurité comme Sarajevo, Tuzla, Djepa, Gorazde, Bihać, placée donc sous la protection de l'ONU, et alors d'une ONU vraiment que vous accablez dans votre livre, Sylvie Maton, tant elle est restée totalement impuissante pour arrêter l'épuration ethnique, pour desserrer l'étau des Serbes autour de ces zones de sécurité. Bref, elle est restée totalement impuissante parce qu'elle est restée totalement neutre, ce qu'exige d'ailleurs son statut, Sylvie Maton.
Oui, alors l'ONU n'était absolument pas neutre. L'ONU, pour moi, n'est pas une entité en soi. C'est une espèce d'enveloppe vide dans laquelle on met ce que l'on veut. Le Conseil de sécurité est formé de 5 membres permanents, qui sont donc la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, la Chine, et de 10 membres non permanents. Parmi ces 10 membres non permanents, il y avait à l'époque l'ambassadeur vénézuélien donc auprès des Nations Unies, Diego Arias, qui a déjà témoigné 2 fois au TPI, qui reviendra témoigner encore dans le procès Srebrenica qui est en cours actuellement.
Tribunal pénal international, qui a été mis en place d'ailleurs en 93, en même temps que les zones de sécurité.
Voilà, non pas parce qu'on désirait qu'il fonctionne, mais comme une menace pour éviter justement d'accomplir des faits armés à l'encontre des agresseurs. Et Diego Arias raconte très très bien ce qui se passait justement au sein du Conseil de sécurité, notamment comment... Surtout les Français et les Britanniques, qui étaient complices des Serbes, ne donnait pas les bonnes informations aux non-permanents, faisait disparaître des documents importants, etc. Toutes les résolutions portant sur l'embargo des armes, la no-fly zone, tout ça, étaient vraiment des aides logistiques à l'agresseur. Bon, tout ça est prouvé aujourd'hui, on le sait.
Oui, mais l'ONU ne peut faire que ce que ses gouvernements, les gouvernements qui en sont membres, acceptent de faire. Si vous dites que l'Angleterre et la France ne veulent pas ou racontent des salades, on peut pas contraindre l'ONU à agir contre les Serbes qui poursuivent le siège de ces villes. Alors, il y a quelques initiatives que vous mentionnez d'officiers de Français, de casques bleus, qui, malgré les recommandations de l'ONU et sa neutralité, comme le général Morillon, qui va justement s'installer à Srebrenica en disant « je vais défendre la population », comme le général Gobillard aussi, qui va s'emparer d'un pont pris par les Serbes au sud de Sarajevo. Mais dans l'ensemble, quand même, l'ONU reste plutôt paralysée. On va même voir une chose qui a scandalisé l'opinion publique internationale, les Serbes carrément prendre en otage des casques bleus.
Oui, puisque les casques bleus en question étaient, ne pouvaient rien faire d'autre si les Serbes désiraient les prendre en otage que de se laisser faire. Ils n'avaient aucun moyen de se défendre. Ils étaient des otages potentiels. Et c'est d'ailleurs ce que le général Janvier a toujours défendu devant le Conseil de sécurité. Ce pauvre général Janvier
qui commandait la Fort-Prenue.
Qui, contrairement aux deux autres généraux que vous avez cités, commandait la Fort-Prenue en ex-Yougoslavie et qui a pris toute la responsabilité via les politiques alors qu'il était aux ordres et qu'il avait lui-même les mains liées par la présence des casques bleus qui n'étaient pas assez nombreux, qui n'avaient pas de mission. En d'autres termes, ces zones de sécurité n'ont jamais été des zones de sécurité. Les habitants n'ont jamais été protégés. Ils ont reçu des obus pendant des années, etc. Donc
effectivement, protégés. Disons qu'ils sont protégés par le fait que les Serbes restent autour des villes sans s'en emparer, jusqu'à ce qu'en 95, justement, Karadzic et Mladic décident d'en finir avec ces zones de sécurité, puis s'emparent de la ville de Srebrenica, sans aucune résistance d'ailleurs de la part des 350 casques bleus néerlandais de la Fort-Prenue, qui sont censés la défendre. Écoutez France Inter, Serge Martin, le 11 juillet 1995, jour de la prise de Srebrenica.
France Inter.
Srebrenica est tombée aux mains des Serbes. En dépit de la présence de casques bleus néerlandais, en dépit d'une frappe aérienne de l'OTAN, l'enclave musulmane de Srebrenica, à l'est de la Bosnie, est donc tombée cet après-midi aux mains des forces serbes bosniaques. En ligne de Sarajevo, notre correspondant Eric Biegala.
Les chars serbes sont entrés dans la ville, la population et les casques bleus fuient vers le nord de l'enclave. La ville est tombée vers 16h, quelques 24 000 civils se trouvaient encore à l'intérieur hier. Nul ne sait ce que les Serbes comptent faire de cette population complètement désemparée. On espère que les soldats se comporteront humainement, mais de nombreux précédents en Bosnie font redouter au contraire que la population civile ne fasse les frais des avancées serbes. Srebrenica est une enclave assiégée, il n'y a nulle part où les habitants pourraient se réfugier.
Ne vous inquiétez pas. Bonjour, ça va? Quel âge as-tu, toi?
12 ans.
Les femmes et les enfants d'abord. N'ayez pas peur et laissez vraiment passer les femmes et les enfants en premier, d'accord?
N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal. Ne pleurez pas.
On a été séparés. Laissez-nous retrouver les nôtres.
Ne vous inquiétez pas.
Alors l'homme que l'on vient d'entendre, qui a été traduit, c'est le général Mladic. On le voit dans un documentaire, c'est saisissant, cet homme qui s'apprête à liquider des milliers de personnes à Srebrenica, qui tente de les rassurer, qui caresse la tête d'un enfant, alors qu'il a reçu des ordres, et depuis longtemps déjà, depuis le jour où Karadzic a décidé de s'emparer des villes, et notamment de Srebrenica, d'éliminer les musulmans. C'est textuellement écrit, vous le rappelez dans votre livre, c'est un ordre du 8 mars 1900. 1995. Hein. Il s'agit d'étruire et anéantir la population musulmane.
Oui, toutes les directives de Karadzic sont très claires, celles de Mladic aussi. Il ne faut pas oublier non plus que Mladic est membre de l'armée serbe. Donc il est, lui, sous les ordres de Milosevic. Il est payé par le gouvernement de Belgrade. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas été arrêté et qu'il est fort probable qu'il sera retrouvé mort un jour avant d'arriver à La Haye, parce qu'il met le gouvernement de Serbie en cause, plus que Karadzic, qui lui est un serbe de Bosnie.
Oui, mais alors justement, cet ordre, il le reçoit. Mais cela dit, se méfiant quand même de la population, on voit la population, vous le rappelez, de Srebrenica, on la voit tenter de s'en aller. Alors, il y a trois catégories d'habitants qui partent. Il y a d'abord 15 000 musulmans qui tentent de fuir vers Tuzla à travers la forêt, qui fuient la ville. Il y en a d'autres qui vont se réfugier dans la base de l'ONU à Potocari, à peu près 5 000 habitants de Srebrenica, et d'autres dans une grande usine, dans une zingrie. Et ils sont traqués par les Serbes, y compris dans la base de l'ONU qui se trouve un peu au nord de Srebrenica, où là, il y a 5 000 habitants qui viennent se réfugier, et là, ils sont littéralement abandonnés aux Serbes par le commandant néerlandais, justement, de cette base, le colonel Carman. Ça, c'est l'homme dont vous décrivez, justement, se comporte d'une manière absolument effroyable. Il abandonne une population, sachant même ou se doutant qu'elle sera massacrée.
Oui, oui, il le sait. Il le sait. D'ailleurs, il a témoigné également au TPI. Lorsqu'on lui demande ce qu'il fait le 11 juillet entre 16h et 18h avant d'aller voir Mladic dans la petite ville donc à côté, Bratunac, il répond « je fais ce que tout être normal aurait fait à ma place, je mange ouais. ». C'est vous dire comme effectivement le sort de toute cette population lui est cher et voilà. Oui, il est assez étonnant. C'est une référence.
Mais il reçoit l'ordre de son gouvernement de revenir avec ses troupes intactes. Il y a 350 Néerlandais qui sont censés défendre les gens, mais il laisse partir. Il laisse même les Serbes trier les hommes et les femmes. Hein. Les femmes partiront dans des camions. Certaines seront violées en route et les hommes seront éliminés.
Absolument. Non seulement lui et ses hommes laissent la séparation se faire, mais certains ont même aidé à cette séparation. Il faut savoir aussi que le fait que l'on sépare les hommes est évidemment une preuve qu'ils vont être massacrés. Car Mladic a déjà un passé dans tous ces nettoyages ethniques, parce que ce ne sont pas des guerres, ce sont vraiment des nettoyages ethniques. On sait très bien ce qu'il va faire des hommes à partir du moment où il les sépare du reste de la population. Lorsque j'ai interviewé Alain Juppé, et que je lui demandais donc ce qu'il entendait par anéantir, car il me dit oui, nous savions tous dans les ministères concernés que les Serbes voulaient prendre les enclaves et anéantir les musulmans. Donc je lui demande ce qu'il entend par anéantir, et il me dit disons que nous savions que les Serbes ne feraient pas de prisonniers. Cette phrase est voilà, il ne s'est même pas rendu compte du gouffre qu'il y avait derrière cette phrase. Ouais. Donc tous les responsables occidentaux sont prévenus dès le 11 juillet, puisque le document que nous venons d'entendre avec Mladic s'adressant à la foule, les femmes, les enfants d'abord, sera sur les banques d'images et passera sur toutes les télévisions du monde.
Alors les femmes et les enfants, en principe, épargnés. Beaucoup d'entre eux seront tués. Et les enfants, ça dépend du sexe. Vous insistez sur le fait que la majeure partie des victimes sont des hommes, et même des hommes en bas âge, des nourrissons. Vous citez par exemple le cas de cette femme qui se trouve dans une usine, s'approche à ce moment-là des soldats, enfin des miliciens serbes, et vous citez ce qui se passe. Quelques soldats s'approchent d'une femme qui donne le sein à son bébé dans l'usine de zinc au milieu de la foule. L'un des soldats lui demande le sexe de l'enfant. Elle répond que c'est un garçon. Aussitôt, le soldat se saisit du nourrisson, brandit un couteau et le décapite. La mère s'évanouit. Des femmes et des jeunes filles sont amenées de force malgré leurs cris et violées plus loin. C'est absolument terrifiant. C'est plus qu'un massacre. Je veux dire, la façon dont ces choses se sont produites sont absolument terrifiantes à vous lire, Sylvie Maton.
Oui, mais le nettoyage ethnique est formé de cela et de torture. Vous avez aussi, au cœur de la forêt, des choses immondes qui se sont produites. Je l'ai mis dans mon livre également en exergue au tout début. Enfin, un grand-père obligé contraint à manger le bout du foie de son petit-fils qui venait d'être éventré devant lui. Enfin bon, des abominations d'un autre âge.
Alors dans la forêt, là, vous évoquez justement les 15 000 musulmans qui ont tenté de s'enfuir vers Tuzla et qui vont être traqués littéralement comme des bêtes par les Serbes. On écoute l'un de ces musulmans, qui a tenté de s'enfuir, un des très rares rescapés du massacre de Srebrenica.
Il était 11h30 lorsque quelqu'un a crié « Rendez-vous ». Les nôtres ont commencé à mettre des t-shirts blancs sur des bâtons et à dire « Ne tirez pas, on se rend, ne tirez pas ».
Allez les gars, mettez les mains en l'air.
Que se passe-t-il aujourd'hui? Je suis d'une télévision indépendante à Belgrade. Que se passe-t-il?
Vous savez très bien ce qui se passe ici.
Certains d'entre nous ont réussi à passer, d'autres sont morts. On s'est levé de cet endroit. Vous ne me croirez pas, mais c'était jonché de cadavres. On s'est retrouvé à Kravitsa dans un entrepôt agricole. À ce moment, ils ont commencé à tirer de partout. Ils ont tiré jusqu'à la tombée de la nuit. Comment voulez-vous que je les reconnaisse? Ils tiraient de l'extérieur du hangar. Quand vous avez la tête de votre voisin comme coupée à la tronçonneuse, des mains tranchées, à quoi voulez-vous penser? Ceux qui ont été tués en premier étaient les plus chanceux. Le pire était pour les blessés et les vivants. Aujourd'hui, personne ne veut croire à mon histoire.
Mes sœurs, mes frères, mon frère, je rêve de vous toutes les nuits, vous n'êtes pas là, je vous cherche, partout où je vais, je vous vois, maman, papa, pourquoi n'êtes-vous plus là? C'est une chanson interprétée à Srebrenica par une petite fille pour le 11e anniversaire des massacres qui ont fait, vous le rappelez, plus de 8000 morts en quelques jours dans une Bosnie, évidemment, où on ne peut pas oublier ce qui s'est produit. Et pourtant, on a mis beaucoup de temps, et où vivent encore les bourreaux, on a mis des années avant que le tribunal pénal international ne puisse traduire justement Milosevic, le responsable serbe, enfin du gouvernement de Belgrade, de ces massacres. Karadzic, qui n'a été pris qu'il y a quelques mois à peine. Mladic court toujours. Comment expliquer cette espèce d'impunité aujourd'hui, ou en tout cas pendant longtemps, des plus hauts responsables de ce massacre, Sylvie Maton?
C'est assez simple en fait, c'est-à-dire que à partir du moment où les Occidentaux qui siègent, qui sont notamment membres permanents au Conseil de sécurité, ont laissé faire, ont été d'accord avec Milosevic pour le laisser faire. Parce qu'il y a quand même Milosevic derrière tout ça. Lorsqu'on parle de Karadzic, il est avéré aujourd'hui...
C'est un sous-fifre, ça voulait dire.
Voilà, que Karadzic...
Milosevic est mort, hein, il est mort justement, alors qu'il a, après avoir été arrêté, il est mort en 2006.
On l'a laissé mourir, oui. On l'a laissé prendre des médicaments dangereux pour sa santé, comme la rifampicine. Enfin, tout ça a été prouvé, avéré, parce que personne ne voulait qu'on en arrive au verdict, car il aurait été reconnu coupable. Et là, les vraies questions se posaient. Si, puisqu'il était coupable et que autant de preuves et autant de documents avaient pu être produits lors de son procès, comment se fait-il que les Occidentaux, qui étaient parfaitement informés, puisqu'ils ont dissimulé ces preuves pendant très longtemps, on le sait aujourd'hui également, comment se fait-il qu'ils aient négocié avec lui aussi longtemps, etc. Donc effectivement, les Occidentaux, notamment les Français et les Britanniques, il faut le répéter, parce que c'était ceux qui vraiment étaient main dans la main avec lui, l'ont laissé faire et espéraient que, voilà, qu'en deux mois, il gagnerait cette guerre qui n'était pas une guerre civile. Mais aujourd'hui, la Bosnie est un pays totalement grippé par des institutions décrétées par Dayton, les accords de Dayton. C'est un pays qui va très très mal. Tant que la vérité ne sera pas dite et produite donc au sein du TPI,
La vérité,
la population ne pourra pas vivre en paix. Enfin, voilà,
la vérité, en tout cas, on la trouve dans votre livre, Srebrenica, un génocide annoncé, publié chez Flammarion. Vous avez pu entendre des extraits des documentaires suivants, Yougoslavie, suicide d'une nation européenne, de Brian Lapping, édité chez Canal Plus Vidéo, et Srebrenica, plus jamais ça, de Morad Aytarbouch, édité chez France 5. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sandrine Laurent, Philippe Duclos, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Hervé Evano. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand seigneur oublié du Moyen-Âge, Gaston Phébus.